Ça va? Le passage biblique de ce matin est tiré du livre 1 Jean, au chapitre 2, versets 3 à 11, dans la nouvelle édition de Genève. 1 Jean, au chapitre 2, versets 3 à 11. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
Merci, Camille. Il y a tellement de... Pour de vrai, il y a tellement de grandes questions. Cette semaine, je jasais avec des gens, puis toutes sortes de questions qu'on se pose des fois qui vont préoccuper notre cœur. Ça bouffe de l'énergie. Des fois, des questions super importantes, du genre, ça va être quoi mon profil de carrière? Où est-ce que je m'en vais? Où est-ce que je m'en vais dans les études? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je devrais le marier, lui? Est-ce que je suis appelé à me marier? Quand même des grosses questions. Est-ce qu'on devrait se lancer en affaires? Est-ce qu'on devrait déménager? Où est-ce qu'on devrait habiter? Puis, c'est des questions qui sont grandes, qui occupent beaucoup de notre énergie, qui vraiment peuvent dévorer beaucoup d'énergie. Puis c'est des questions auxquelles on ne trouve pas des réponses simples. Souvent, la réponse se trouve dans la sagesse. Alors ça, la sagesse, c'est compliqué, parce que là, ça veut dire que tu vas prier, tu vas écouter les désirs de ton cœur, tu vas chercher conseil, tu vas voir des gens sages autour de toi, tu donnes du temps pour éprouver un peu ce qui semble se forger comme conviction, puis à un certain moment donné, tu dis « Ok, je pense que j'ai une conviction, je sais où je m'en vais, mais pour vrai. » Tu dis « Après ça, j'assume. J'ai cherché la sagesse, après ça, j'assume, puis on avance avec ça, je peux pas revenir. » Puis tu rentres dans ça. Et donc, ces questions-là sont... C'est le résultat de la sagesse. Et c'est tout un art, la sagesse. On passe notre vie à chercher la sagesse, à prendre des décisions, puis à regarder en arrière, puis dire, finalement, non, je ne l'avais pas cette fois-là. Mais j'ai pris cette décision-là, puis là, il faut que je m'assume. Mais s'il y avait une question plus fondamentale que celle-là encore, plus intime, plus profonde, je dirais plus fondatrice, plus essentielle, pour laquelle je peux avoir une certitude, une réponse qui est absolue pour rassurer mon cœur. Si je pouvais savoir avec certitude que je connais Dieu et que Dieu me connaît et qu'on est en communion, lui et moi, si je peux avoir une certitude là-dessus, je connais Dieu vraiment, le Créateur, souverain. Il me connaît personnellement, puis on est en communion ensemble, on marche ensemble. Et ça, c'est quelque chose après, quand je dois faire face à toutes ces questions-là, pour lesquelles je vais passer un peu toute ma vie à chercher des réponses puis à chercher la sagesse. Écoutez bien ceci. Voici ce que l'apôtre Jean avait sur son cœur, qui est vraiment un berger. Il veut que nos cœurs soient rassurés qu'on est vraiment en communion avec Dieu, puis en même temps, il veut s'assurer qu'on n'est pas en train de se tromper nous-mêmes lorsqu'on se dit qu'on est en communion avec Dieu puis qu'on se dit qu'on le connaît. Et je pense que ce matin, chacun d'entre nous, on peut partir d'ici avec un cœur rassuré. Même si on n'a pas des réponses à toutes les grandes questions existentielles, on peut partir avec une certitude, vraiment absolue dans notre cœur, qu'on est en communion avec Dieu. Et c'est ça qu'on voit ce matin. C'est possible d'être certain que je connais Dieu et que je ne me raconte pas d'histoire sur ma communion avec Dieu. Sans dire qu'il s'agit d'une méthode scientifique, Jean nous dit que la certitude que je connais Dieu est possible. Et c'est ça qu'il veut avoir pour ses frères et sœurs-là qu'il aime tellement, qu'il a tellement à cœur. Comment est-ce que je peux rassurer mon cœur, premièrement, que je connais vraiment Dieu et que je suis vraiment en communion avec lui? Et je dois vous donner un avertissement, d'accord? Moi, la première lettre de Jean m'a toujours troublé. Puis, en fait, si elle ne vous trouble pas du tout, je suis un peu inquiet pour vous, d'accord? Parce que dans 1 Jean, ce que l'apôtre Jean fait, c'est qu'il nous donne des tests. Il donne des tests de la foi. J'ai expliqué un peu le contexte la semaine dernière pour aller écouter le message, mais il y a des gens qui viennent puis qui veulent remettre en question tout ce qui a été enseigné, puis entraîner des gens vraiment à quitter l'Église, puis à quitter ce qui a été transmis par les apôtres. Et donc, Jean va dire, voici comment vous pouvez savoir que vous connaissez vraiment Dieu, que vous marchez avec lui. Et donc, ce sont des tests. Et je dois donner un avertissement pastoral. Parce qu'il y a deux types de... Vous vous classez dans deux groupes, d'accord, ce matin. Il y a des gens qui ont des consciences plus sensibles. Ceux-là, chaque fois qu'il y a un message, c'est toujours pour eux. Dieu est toujours en train de les remettre en question. Ils sont toujours à l'envers quand ils partent d'ici. Puis un Jean, c'est vraiment troublant. Parce qu'à chaque fois que tu lis un Jean, tu dis, je ne sais pas si je suis chrétien. Puis il y a l'autre groupe. Excusez-moi de vous pointer comme ça, mais les cœurs fiers et orgueilleux. Les autres, ils savent qu'ils connaissent Dieu, ils savent qu'ils sont dans le bon chemin, ils savent qu'ils ont la vérité. Et donc, je veux juste vous mettre en garde, parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer à travers un Jean, dépendamment dans quel camp vous êtes, ça peut vous brasser dans toutes les directions. Mais en même temps, c'est très sain de se remettre en question. C'est bon de se remettre en question. Alors, prenez ces messages-là et demandez à Dieu, par son esprit, de les appliquer à vos cœurs. Les appliquer à votre situation. Soyez réceptifs. Puis en même temps, si vous savez que vous avez une conscience fragile, vous êtes toujours assailli de doutes. Cette lettre-là a été donnée pour vous rassurer. Puis d'un autre côté, si vous êtes tellement certain, peut-être que vous devriez douter. Parce qu'il y a une partie des auditeurs de Jean qui n'étaient pas sauvés, qui ne connaissaient pas Dieu. Puis on vit à l'époque où tout le monde a une opinion sur Dieu, puis tout le monde connaît Dieu. Donc c'est approprié de se poser des questions. Aujourd'hui, tout le monde a l'impression qu'il connaît Dieu. En tout cas, en Occident, tout le monde a une opinion sur Dieu. Tu parles aux gens, puis ils savent tout, ils ont une opinion sur Dieu. L'image qui me venait à l'esprit, c'est parler de Dieu, c'est un petit peu comme lorsque tu t'en vas magasiner pour une belle tenue de linge, tu sais, puis tu t'en vas à un événement, puis là tu dis « qu'est-ce que t'en penses, ça va-tu, ça fit-tu ensemble? » Tout le monde a une opinion. J'aime pas, je connais Dieu. D'après moi, Dieu est comme ça, Dieu est pas comme ça. Puis on vit à cette époque-là. Dieu est devenu dans la pensée populaire un concept tellement vague, la notion de bien, de mal, de vérité, c'est tellement vague, tellement indéfini, on voudrait croire que c'est ça, que tout le monde a son opinion sur Dieu. Cette semaine, je jasais avec des gens, puis j'étais frappé de voir, sans nécessairement connaître les Écritures, ils savaient plein de choses sur Dieu, ils avaient leur avis sur Dieu, puis ça partait dans toutes les directions, la conversation. Puis en même temps, à l'époque de Jean, les choses n'étaient pas si différentes que ça. On a l'impression, des fois, comme chrétiens, on voit l'Occident, hein, on voit l'Amérique qui est en train de changer, on voit le Canada qui est en train de changer à toute vitesse, puis on dit, oh, il y avait un paquet d'affaires qui étaient certaines, qui ne sont plus là, sont en train de disparaître. Écoutez ce que le théologien Colin Brown écrit sur cette époque-là. Colin Brown dit, dans la période grecque classique qui a précédé, d'accord, la connaissance de Dieu était poursuivie à travers l'exercice de la raison humaine ou de la philosophie. On réfléchissait sur Dieu, puis on essayait de sortir des grands traits sur la personne de Dieu. Puis est venue avec Alexandre le Grand la période hellénistique. Là, on est allé ailleurs pour connaître Dieu. Là, c'est à travers les religions de mystère. C'est quoi les religions de mystère? Ben, tu consommais du bon stock, tu rentrais dans des transes, puis tu avais des révélations que tu pouvais pas nécessairement expliquer quand tu revenais à toi-même, mais tu avais rencontré Dieu, tu sais, tu avais connu Dieu, où il y avait des rites assez effrayants parfois, avec toutes sortes de sacrifices, mais lugubres, avec les gens pouvaient s'asperger ou littéralement se baigner dans le sang des sacrifices, puis toutes sortes de choses, puis là, ils poussaient leur corps à l'extrême, puis ils rentraient dans des transes, puis là, ils recevaient des révélations. Encore une fois, rien d'intelligible. Tu sortais de là, puis tu avais comme, moi j'ai connu Dieu. Ça, c'était les religions en mystère, puis tu possédais une vérité que tu ne pouvais pas communiquer. Encore présent à l'époque de Jean, puis ça va suivre après avec le gnosticisme, ça va aller dans ce sens-là. Une gnose, une connaissance qui est comme pas vraiment communicable. Il y a juste les initiés qui l'ont, puis eux-mêmes ne savent pas vraiment ce qu'ils ont, ils ne pourraient peut-être pas la transmettre. C'est assez étrange. Puis il vient après ça, Israël. Alors en Israël, bien, c'était par révélation. Dieu parle à travers sa parole. Mais voyez-vous, à cette époque-là aussi, lorsque Paul arrive, par exemple, à Athènes, il arrive là, puis il rencontre les philosophes, les discoureurs, puis il commence à jaser avec eux, puis tout le monde a une opinion. Quand il commence à parler de la résurrection, « Wow, OK, là, je décroche. Non, non, Dieu n'est pas comme ça. » Et tout le monde a une opinion. Tout le monde a une opinion sur Dieu. Est-ce que c'est possible vraiment de connaître Dieu? Est-ce que c'est possible d'avoir des certitudes sur Dieu? Jean nous dit que je peux avoir une certitude que j'ai connu Dieu et que tout ça ne repose pas simplement sur mon opinion, mes avis. Et puis, il parle d'une connaissance qui est vraiment intense. Regardez avec moi le verset 3. Si nous gardons ses commandements, nous connaissons, nous savons par cela que nous avons la connaissance de lui. Nous le connaissons. Je sais que je le connais. Et le mot qui est là, c'est un petit peu le même concept que je trouve dans Jean, lorsque Jésus va parler avec ses disciples, et puis dans Jean 14, voici ce qu'on lit. Jésus annonce à ses disciples, les choses défilent très très rapidement, les disciples ne comprendront plus rien lorsque Jésus va se retrouver sur la croix, il est en train de les préparer. Voici ce que Jésus leur dit, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, si vous avez la connaissance de Jésus, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Alors un des disciples, Philippe, dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Qu'est-ce que Jésus répond? Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » C'est de cette connaissance-là dont il est question ici dans 1 Jean. C'est une connaissance intime. C'est pas que je sais des choses sur Dieu. J'ai pas lu des choses sur toutes les religions du monde, puis je suis en train d'accumuler des informations sur qu'est-ce que l'islam enseigne, qu'est-ce que le bouddhisme enseigne, qu'est-ce que le judaïsme enseigne, qu'est-ce que le christianisme enseigne, puis je me forge une idée, puis j'accumule des connaissances. C'est pas de cette connaissance-là dont il est question ici. Jean parle d'une certitude profonde que j'ai connu Dieu. Et dans Jean, dans l'évangile de Jean, même auteur, Jésus dit à Philippe, « Philippe, Philippe, le jour où tu vas réaliser qu'entrer en communion avec Jésus-Christ, connaître Jésus-Christ, c'est connaître Dieu le Père, tu vas m'avoir connu. Là, tu pourras dire que tu me connais vraiment. Quand tu auras réalisé qui je suis, c'est fascinant dans le passage dans 1 Jean, où est-ce qu'on est. J'ai pas le temps de m'attarder sur ça. Mais je vous invite à prendre le temps de lire juste attentivement les versets 3, 4, 5, 6, puis essayer de déterminer à chaque fois s'il est question de Dieu le Père ou de Dieu le Fils. Celui qui l'a connu, celui qui obéit à ses commandements, les commandements de qui? Du Père, du Fils. Essayez d'attribuer. Vous allez voir, c'est vraiment difficile. Et je crois que c'est intentionnel parce que celui qui a connu le Fils a connu le Père. C'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Dieu le Père, le Fils, l'Esprit, trois personnes en une. J'irai pas là ce matin, désolé. Mais en même temps, celui qui a connu Jésus a vraiment connu Dieu. A vraiment connu Dieu. Et c'est possible d'avoir cette connaissance-là de Jésus-Christ qui est profonde, qui est réelle, qui passe par une révélation, par l'intelligence où je comprends qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait, qui est Dieu. J'apprends que Dieu est lumière, que Dieu est saint. J'apprends des choses sur Dieu. Mais cette connaissance-là sur Dieu dépasse les informations sur Dieu, puis vient profondément façonner, transformer, définir qui je suis à l'intérieur de moi parce que j'ai connu Dieu. J'ai connu Dieu véritablement et intimement. Jésus leur avait fait connaître sa nature profonde. Et connaître Jésus-Christ, ça revient à connaître Dieu. C'est possible de le connaître pour de vrai. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu le connais vraiment? C'est deux choses, hein, de dire, non, je sais, je le connais, moi Dieu, je l'ai toujours connu. C'est des impressions. Si tu avais l'opportunité de vérifier tes impressions, est-ce qu'elles tiendraient la route? Tu me dis que tu connais mon épouse Esther. Je vais te faire parler. Ah, tu la connais, parle-moi d'elle. Dis-moi qu'est-ce qu'elle aime. Qu'est-ce qu'elle fait avant de se coucher? Qu'est-ce qu'elle aime manger le soir quand elle a des petites rages, là? Oups, désolé chérie. C'est quoi qui la préoccupe? C'est quoi qu'il y a dans son cœur? Oh, je ne la connais pas parfaitement. C'est une autre personne, j'ai souvent dit, hein? C'est un autre univers. Mais je connais Esther. Si tu me dis que tu connais Dieu, il faut que tes connaissances sur Dieu puissent être vérifiées, validées. Est-ce que tu connais Dieu? Et est-ce que tu connais Dieu simplement avec ta tête ou est-ce que tu as connu Dieu? Puis répondre à ça est fondamental parce que la suite du passage repose sur ça. Le test que Jean va placer devant nous repose sur cette connaissance que j'ai de Dieu. Je l'ai souvent dit, je le répète, le christianisme, c'est quelque chose d'insupportable. Vraiment très, très lourd si je ne connais pas premièrement Dieu. On va le voir ensemble. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu as la certitude que tu connais Dieu? Est-ce que ce que tu crois connaître de lui, tu peux le valider à travers sa révélation, à travers sa parole? Est-ce que tu peux le vérifier? Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, on vit à une époque où tout le monde a une opinion sur Dieu. Tout le monde pense qu'il connaît Dieu. Tout le monde sait plein de choses sur Dieu. Je pense que c'est souvent davantage des opinions qu'une véritable connaissance. Pour comprendre ce que Jean est en train de nous enseigner, il faut s'arrêter sur un tout petit mot. Au verset 3, il y a un tout petit mot qui est peut-être le mot le plus important de tout le verset. C'est presque le plus petit mot. Il y a un L apostrophe, là, fait que c'est pas le plus petit. Il y a un si. Il y a un si. Et ce mot-là est super important. C'est ce mot-là qui va nous permettre de déterminer ce matin si vraiment on connaît Dieu ou non. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Jean nous dévoile le test auquel on va devoir se soumettre chacun d'entre nous pour savoir si vraiment on a connu Dieu. Avec ce petit mot-là. Si je garde ses commandements. Un petit peu plus loin, il dit si on marche comme il a marché lui-même. Pour ça, je vous dis, hein, ses commandements, peut-être Dieu le Père marche comme il a marché Jésus. Intéressant, hein? Si je garde ses commandements, si je marche comme il a marché, alors je peux savoir que je l'ai connu. Maintenant, avant d'aller plus loin, avant qu'on parte avec l'idée que le christianisme, c'est un set de commandements, de directives, regardez qu'est-ce que le passage nous dit. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Marcher avec Dieu repose premièrement sur une connaissance de Dieu. Le cœur humain est un cœur religieux. On est tous des êtres religieux. On veut gagner, on veut mériter, on veut gagner l'amour des autres, on veut mériter notre place auprès de Dieu. Dans notre tête, la religion, c'est quelque chose, c'est une transaction qu'on fait avec Dieu où je vais apporter assez pour que Dieu s'intéresse à moi. Les Saintes Écritures nous font connaître Dieu complètement différemment. La connaissance de Dieu vient avant l'obéissance. Et elle passe par Jésus-Christ. C'est super important de saisir ça, d'accord? Regardez ce que le verset dit. Si nous gardons ses commandements, si dans ma vie je suis en train de garder ses commandements, j'ai une vie qui est en règle avec, on va voir ensemble les commandements, mais j'ai une vie qui est en règle avec les commandements de Dieu, c'est un symptôme. C'est une marque, c'est quelque chose que j'observe dans ma vie. Ce n'est pas une condition pour connaître Dieu. C'est le fruit, c'est une résultante, c'est un résultat. L'obéissance vient toujours après la connaissance de Dieu. Parce que l'apôtre Paul, ailleurs, dans l'Épître aux Romains, nous dit que par nous-mêmes, on n'est pas capable d'obéir, on n'est pas capable d'être fidèle à Dieu. On est par nature, dans le langage de Jean ici, par nature, nous sommes ténèbres. Par nature, nous sommes déchus. Par nature, on reste caché dans notre coin avec nos trucs dont on n'est pas fier, puis qu'on voudrait peut-être pas dévoiler, puis certainement pas dévoiler devant la sainteté de Dieu. Ce serait insupportable pour nous. Par nature, on est là. Et on n'est pas capable par nous-mêmes de marcher dans la lumière comme Dieu est lumière. On peut s'imaginer qu'on marche dans la lumière. On peut se définir une espèce de bien, une vie qui est bien, puis se donner confiance. Mais devant Dieu, dans la présence de Dieu, on est incapable. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Ainsi, c'est super important de réaliser ça. Jean nous dit, « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. » La vie chrétienne, ça se vit par la grâce. C'est une marche qui se fait par la grâce. On est sauvé par grâce. Alors, je vous rappelle juste avant le verset, les versets 1 et 2. Mes petits-enfants, 1 Jean 2, 1. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. On est sauvé par grâce. On connaît Dieu par grâce. On obéit par grâce. Et donc, ces tests-là que Jean est en train de nous donner, ce sont des tests qui me permettent de dire, est-ce que j'ai vraiment connu Dieu? Si j'ai vraiment connu Dieu, il y a une résultante, il y a des fruits. Il y a quelque chose à cueillir sur cet arbre-là qui est vraiment fondé dans la connaissance de Dieu. Il y a quelque chose qui pousse, il y a un fruit, il y a une saveur, il y a un parfum de Christ qui est là. Parce que les racines sont ancrées dans une connaissance de Dieu. Parce que j'ai été sauvé par grâce, parce que je l'ai connu, il y a des fruits qui poussent, qui résultent de ça. Pas l'inverse. Si vous essayez de faire l'inverse, vous embarquez dans une religion, vous allez être malheureux. En fait, la loi est utile. Continuez, forcez, essayez de vous rendre là. Jusqu'à temps que vous n'ayez plus de force, puis vous criez à Dieu, puis vous dites, « Seigneur, ça ne marche pas, je ne serai jamais saint. » Martin Luther, ça a été un point tournant dans sa conversion. Pas Martin Luther King, Martin Luther, réformateur allemand. Pas capable. Alors continuez, forcez, essayez de gagner votre ciel. Mais soyez honnête. Mesurez-vous au standard biblique, au standard de Dieu. Vous allez voir, vous allez arriver au bout de vous-même, puis vous allez crier, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur, parce que je ne peux pas y arriver par moi-même. Gardez les commandements de Dieu. De quel commandement est en train de parler ici? On va rester dans la lettre pour répondre à cette question-là. On va rester dans la même lettre. Tournez avec moi dans 1 Jean 3, les versets 21 à 23. De quel commandement est-ce qu'il est en train de parler? Est-ce qu'il parle des 10 commandements de Moïse? Regardez bien ce qui est écrit dans 1 Jean 3, 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Encore cette assurance, hein? Cette certitude qu'on connaît Dieu. « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. » On y reviendra, ce verset-là qui est un peu difficile sur la prière. C'est plus tard, ça, d'accord? « Et nous faisons ce qui lui est agréable. » Et c'est ici son commandement. « Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. » Jésus nous a donné un commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé. Et Jean nous dit ici que le commandement de Dieu, c'est qu'on croit dans son Fils, que je crois en Jésus-Christ. Là, tu as déjà une piste super importante. Tout à l'heure, j'ai posé la question, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Est-ce que tu connais vraiment Jésus-Christ? Est-ce que tu connais intimement Jésus-Christ? Est-ce que tu as lu les évangiles? Il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Est-ce que tu as lu les évangiles? Tu peux connaître beaucoup de choses sur lui, puis étudier son histoire, comment il a vécu, qu'est-ce qu'il a enseigné. Va lire les évangiles. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Est-ce que tu connais son histoire? Puis est-ce que tu crois en lui? Parce qu'encore là, les démons connaissent Jésus-Christ. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, hein? Ils le connaissent, mais ils ne croient pas en lui pour faire de lui leur Seigneur, leur Sauveur. Est-ce que tu connais Jésus-Christ personnellement? Parce que ce n'est pas n'importe quelle foi. C'est pour ça que je vous dis, tout à l'heure, je posais la question, est-ce que tu connais Dieu? Oui, je connais Dieu. Mais ce que tu connais sur Dieu, est-ce que ça peut supporter un test quelconque? Si Dieu se pointait, il apparaissait comme ça, puis il disait, « OK, tu me connais, parle-moi de moi 2 minutes. Parle-moi de moi. Explique-moi qui je suis. » Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des Grecs qui philosophaient sur Dieu, des Hellénistes qui vivaient des trans, des choses qui étaient inintelligibles, qui ne pouvaient même pas communiquer sur la personne de Dieu. Puis vient Dieu qui s'est fait connaître lui-même. Qui s'est fait connaître lui-même. Comment vous pensez que j'ai appris à connaître Esther? En jasant, en étant avec elle, en écoutant ses joies, ses peines. Est-ce que vous connaissez personnellement Jésus-Christ, son histoire, sa vie? Est-ce que vous croyez en lui? Jean me dit que c'est possible pour moi de rassurer mon cœur. Si je regarde dans ma vie, puis je dis, je marche dans tes voies, Seigneur, je garde tes commandements. Je garde tes commandements, je marche avec toi. Ma vie ancienne et ma vie en toi, ce n'est pas la même. Je prends plaisir dans tes voies. Est-ce que je le fais parfaitement? On vient juste de dire qu'on est sauvé par grâce. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est menteur. C'est ça que nous dit Jean juste avant. Donc, pas parfaitement. Nous péchons encore. Souvent, trop souvent. Mais généralement, dans ta vie, c'est quoi le tronc de ta vie? Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je vais troubler du monde ce matin, puis il y en a d'autres qui vont dire, « Man, je suis tellement sur la coche. » C'est même pas drôle. Des fruits, pah! Amène le filet, ça tombe. Il y en a d'autres qui ont une conscience fragile et qui disent, « Ouais, mais je pêche tous les jours. » Hey, ça ressemble pas mal à ce que Jean dit ici. Hein? Tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec tes péchés? Puis j'aime l'idée que Jean nous dit que garder ses commandements, c'est marcher sur ses traces. Regardez le verset 6. « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Suivre Dieu n'a jamais été aussi clair que depuis la venue de Jésus-Christ. Dieu peut apparaître comme un concept, comme quelque chose de loin, quelque chose d'étrange, jusqu'à la venue de Jésus. Comment on allait lire Matthieu, Marc, Luc, Jean, regardez comment il réagit, regardez comment il accueille, regardez comment il reprend. Regardez comment il résiste aux tentations. Regardez comment il est consacré à son Père, comment il est obéissant, comment il prie, comment il accepte la souffrance. Puis marcher sur ses traces. Suivre Dieu, marcher à la suite de Dieu, obéir à Dieu, n'a jamais été aussi clair que depuis la venue de Jésus-Christ. Je lis cette lettre-là, puis à tout moment donné, je ne sais pas s'il parle du Père ou du Fils ou... Parce que celui qui a connu le Fils a connu le Père. Celui qui marche sur les traces du Fils est en train de suivre le Père. Il est en train d'obéir au Père. Et donc, ce que Jean est en train de me dire, c'est que quotidiennement, je peux aller dans les Écritures, je peux aller dans la prière, je peux arriver devant plein de situations dans ma vie super concrètes, super challengeantes, super difficiles, exigeantes, où j'aurais le goût de faire ci, j'aurais le goût de faire ça, j'aurais le goût de réagir comme ça. Je peux aller poser la question, « Christ, comment est-ce que tu le ferais? Qu'est-ce que je dois faire si je veux marcher à ta suite? Comment est-ce que je dois réagir, Seigneur? » Puis je le fais de manière imparfaite. « j'ai pas le goût! J'ai pas le goût de faire ça! J'ai pas le goût d'aller là! Il y a des luttes, il y a des combats! Je m'en vais dans la prière! Seigneur, conduis mon cœur là! Mon cœur a besoin d'être assuré que je suis attentif, que j'écoute ton esprit qui est en train de m'aider à marcher dans les traces de Jésus. » Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Est-ce que tu appliques ton cœur à marcher comme il a marché lui-même? Prends le temps de méditer ses actions. Prends le temps de méditer ses attitudes, ses réactions. Est-ce que fondamentalement, tu ressembles à Jésus? Je vous le mettrais plus facile, tu sais, mais je pense que c'est ça que le texte dit. Est-ce que fondamentalement, tu ressembles à Jésus? Ah, tu pêches, mais tu te repens. Tu vas te mettre en règle avec le Seigneur, tu vas confesser tes péchés. Est-ce que fondamentalement, tu ressembles à Jésus? Son commandement, c'est que nous croyions dans son Fils et que nous nous aimions les uns les autres. La question la plus difficile que Jean nous pose ce matin dans ce passage-là, c'est le troisième élément que je veux souligner. Est-ce que je tolère mon frère ou est-ce que je l'aime? Alors, je vais faire une petite leçon de québéquisme pour nos frères et sœurs immigrants. Vous ne l'entendrez pas souvent, mais ça se peut que vous l'entendiez encore. Au Québec, nous, on ne hait pas quelqu'un. Jamais, tu sais. « Oh, je le hais ». Non, c'est trop fin. Tu es quasiment en train de l'aimer quand tu dis ça, tu sais. Tu ne peux pas dire ça au Québec. « Oh, je le hais ». Non, tu haïs quelqu'un, tu sais. Tu haïs quelqu'un. Puis si vraiment tu l'haïs, ça se peut que « Oui, je l'haïs ». Moi, j'entendais ça souvent. « Je le guis! » Ben moi, je ne guis pas personne. Je suis un bon chrétien. Est-ce que vous voyez l'intransigeance de Jean dans le passage ici? Il n'y a pas de zone de gris avec Jean ici. Il n'y en a pas du tout. Tu l'aimes ou tu l'haïs? Ah, je ne l'haïs pas. Je l'haïs pas, lui. Ah, pas vraiment. Ah, je l'haïs pas. Je l'haïs plus. Je le tolère. C'est ça aujourd'hui, c'est l'époque de la tolérance, hein? On en fait des lois, n'importe quoi, la tolérance. Moi, comme pasteur, c'est pas que je vous aime ou je vous aime pas, mais je vous tolère. Si ça vous va, c'est bon. Moi, je vous tolère. La charité chrétienne, en bon pasteur, je vous tolère. Marche pas, hein? Je ne l'haïs pas. C'est pas ça la question. Est-ce que tu l'aimes? C'est ça la question. Non, mais je ne l'haïs pas. Non, est-ce que tu l'aimes? Je ne l'haïs pas. Je le tolère. Dans Jacques, voici ce qu'on lit au chapitre 2, versets 14 à 17. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps? À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Est-ce que ton amour est généreux? Est-ce que ton amour est rempli de douceur? Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, comme ceux qui ont connu Dieu, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Pas de tolérance. Pas de tolérance. Dans Philippiens 4, 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Cette semaine, j'ai beaucoup médité sur le passage, j'ai beaucoup prié pour l'Église, j'ai beaucoup prié pour Yannick Etier. Beaucoup. C'est intéressant, dans le passage, Jean parle de l'amour pour un frère. Sous-entendu, les frères et sœurs. Sous-entendu, l'Église de Jésus-Christ. Intéressant, le test, c'est pas est-ce que vous aimez le monde. Le test, c'est pas est-ce que vous aimez les gens hors de l'Église. Quoique c'est vrai, on doit aimer notre prochain. On doit aimer tout le monde. Le test, c'est est-ce que tu aimes ton frère qui est en Jésus-Christ? Il y a quelque chose de particulier avec l'Église locale, qui est un test presque parfait. Quand tu colles dans une Église locale, quand tu t'intègres dans la vie d'une Église locale, puis tu restes pas 6 mois, pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, mais 5 ans, 10 ans, 15 ans, si Dieu le permet, si Dieu ne t'appelle pas ailleurs, aller travailler ailleurs, partir en mission, implanter, peu importe. Tu restes, tu colles, puis tu rentres dans des relations. Il y a quelque chose de profondément révélateur. Cette espèce de zone-là où je vais rentrer dans une attitude de tolérance est tellement tentante. Parce que à un moment donné, non, je ne le tolère plus. Lui, je ne suis pas capable de le sentir. Puis on va essayer d'être trouvé dans l'Évangile ce qu'il faut pour juste aller m'asseoir ailleurs dans la salle. Tu sais? Juste ça. Mais après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans dans une église locale, est-ce que tu veux rassurer ton cœur pour savoir que tu connais Dieu? Est-ce que tu aimes ton frère, ta sœur qui est dans l'église? Tu es marié avec ton frère ou ta sœur dans la foi? Est-ce que tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur? Ou est-ce que tu le tolères? Est-ce que tu l'aimes d'un amour tendre? Qui fait que tu vas passer par-dessus les irritants, tu vas garder ton cœur là, tu vas t'assurer que lorsque ton premier amour pour l'Église locale veut se dissiper, tu vas aller renouveler tes vœux envers Christ en disant « J'aime ton Église, Jésus-Christ, comme tu l'aimes. » C'est ça la pensée qui me revenait constamment cette semaine. Je priais, j'écrivais, puis je disais « Seigneur, tu l'as aimé, comment je peux pas l'aimer? Je dois l'aimer, Seigneur, tu l'as aimé! » Tu l'as aimé au prix de donner ta vie, de verser ton sang pour ton épouse qui est l'Église locale. Ah, moi j'aime l'Église universelle. Mais oui, c'est n'importe quoi ça. C'est juste pour me dire que tu n'es pas capable d'aimer ton frère que tu vois, c'est tout. C'est n'importe quoi. Ah non, moi j'aime les chrétiens. J'entends des fois, ah c'est pas toi, il y en a que c'est l'Église. Tu sais. Oui, qu'est-ce qu'elle a l'Église? Jésus est mort pour elle. Il y a des pécheurs dans l'Église. Il y a des hypocrites. Vous vous rappelez, hein, Mark Dever? Il dit souvent. Qu'est-ce qu'il a dit en dedans? Oh, moi, à l'Église, je ne suis pas capable. C'est toute une gang d'hypocrites. Il a répondu oui, puis il y a toujours de la place pour une de plus. C'est des pécheurs. C'est des pécheurs. Colle dans une église locale. Aime les gens pour de vrai, à travers les années, avec les offenses, avec les blessures, avec les manquements, avec les faiblesses de tout un chacun. Puis continue à pardonner, à aimer, à te réconcilier, à aller vers les frères, à restaurer, à continuer à chérir dans ton cœur. Ton cœur va être tellement, tellement rassuré que tu connais Jésus-Christ. Parce qu'il faut connaître Jésus-Christ pour aimer l'Église, après autant d'années. Aimer des gens qui sont pécheurs, puis qui nous blessent, qui nous heurtent. Et Jean nous dit que lorsque j'aime les frères, ma foi est affermie. Je deviens solide dans ma foi, je me mets à l'abri de m'écarter, de tomber dans la foi. Mais que celui qui est son frère est dans les ténèbres. Et donc, c'est mon exhortation pour vous en terminant ce matin. S'il y a des choses qui ne sont pas réglées entre toi et un frère et une sœur, si dans ton cœur, il y a de la tolérance, mais il n'y a pas de l'amour, tu es en danger. Tu es en danger parce que ton cœur est assombri, ton cœur est dans les ténèbres. Il y a des choses que tu ne vois plus, tu regardes toutes choses à travers un filtre. Tu l'appelles peut-être le filtre du discernement. C'est bon le discernement si tu le doubles de l'amour. Parce que Dieu, juste avec du discernement, vous allez tout en enfer, puis moi le premier. Mais Dieu, avec du discernement, puis de l'amour, hop, je peux être sauvé. Est-ce que tu aimes les frères et sœurs? Ou est-ce que tu laisses des choses s'installer dans ton cœur, puis tu en viens dans une attitude de tolérance? Tu tolères l'Église de Jésus-Christ pour laquelle il a versé son sang. C'est un test extraordinaire pour notre propre foi. Réglez vos conflits, pardonnez-vous, faites grâce comme vous voulez que Jésus vous fasse grâce. Aimez en action, accueillez. Accueillez cet été, soyez attentifs à des gens qui sont dans la foi, qui sont dans l'Église, puis qui sont seuls, qui souffrent de solitude. Soyez attentifs comment vous pouvez simplement tisser des liens d'amitié. tellement précieux, ces amitiés dans la foi, qui fortifient notre foi, qui nous gardent à travers les années, à travers les décennies. Ressemblez à Jésus-Christ. Soyez doux, soyez connus pour cette douceur-là. Et vos cœurs vont être affermis en Jésus-Christ. Parce qu'à l'intérieur de vous-même, vous allez dire, tableau, ce fruit-là qui est en moi, c'est Dieu qui l'a produit. Parce que par moi-même, ce n'est pas là que je serai. Il y a plein de choses qui peuvent tracasser nos cœurs cette semaine encore. Vous allez repartir d'ici avec plein de grandes questions. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? C'est quoi mon plan de carrière? Où est-ce que je m'en vais? Est-ce que je dois me marier? Est-ce que je dois le marier? Est-ce que je dois la marier? On déménage pas. Où est-ce qu'on s'en va? Dans quoi je m'implique? Qu'est-ce que je veux faire? Toutes ces questions-là demandent beaucoup de temps, beaucoup de prières. Mais il y a une chose. Il y a une chose plus importante, plus fondamentale que tout ça, qui peut être extrêmement ferme, bien ancrée dans votre cœur. C'est l'assurance, la conviction que vous avez connu Dieu et que vous êtes en communion avec lui parce que vous gardez ses commandements. Votre connaissance de Dieu n'est pas une opinion, ce n'est pas des spéculations, de la philosophie sur le Dieu tel que vous aimeriez l'imaginer. Vous avez connu Dieu qui s'est fait connaître, qui s'est révélé en Jésus-Christ. Et vous gardez son commandement d'aimer les frères et sœurs, vraiment. Vous savez quoi? Après ça, on peut faire face à un paquet d'affaires dans la vie, plein d'incertitudes. À chaque fois que je m'arrête puis je m'en vais dans la prière, je me lève le matin puis je dis, « Seigneur, je te connais parce que tu m'as connu. Je te connais parce que tu es mon sauveur. Et je te connais parce que tu es en train de transformer ma vie de jour en jour. Mon cœur est en paix pour faire face à toutes les inquiétudes de la vie, à tous les soucis de la vie. » On va prier ensemble. Père éternel, j'aimerais te prier très concrètement pour chacun d'entre nous ce matin dans cette salle, parce que ce soit pour les consciences fragiles ou les cœurs orgueilleux, je suis certain, Seigneur, que tu nous parles à chacun d'entre nous. Je te prie premièrement pour ceux qui ne connaissent pas personnellement Jésus-Christ, qui ont encore à découvrir qui est Jésus, ce qu'il a fait, combien il est merveilleux, qui ont encore à prendre la décision de croire en toi, Jésus, pour leur salut, pour le pardon de leurs péchés, pour leur éternité, qui ont encore à fléchir le genou devant toi et déclarer que tu es Seigneur de leur vie, Seigneur. Viens les convaincre par ta parole, conduis-les dans tes écritures, aide-les, Seigneur, à sonder leur cœur sur ces opinions qu'ils ont sur toi. Et je veux te prier, Seigneur, pour chacun d'entre nous qui t'avons connu. Seigneur, ces tests que Jean place devant nous, ils sont durs. Ils sont durs parce que si on veut être honnête, on n'est jamais à la hauteur de l'amour qu'on aimerait avoir, Seigneur, et trop souvent, on découvre au contraire des racines d'amertume qui veulent s'installer dans nos cœurs, qui peuvent se transformer en tolérance, voire en haine, en retrait de ton Église, des frères et des sœurs. On se sent chargé de discernement, d'intelligence. Quand les gens viennent vers nous, on a toujours une opinion sur tout le monde. Avant même que la personne parle, elle est déjà jugée. Il n'y a plus de grâce pour accueillir. Seigneur, convainc-nous de pécher et conduis-nous, Seigneur, à la repentance, à la réconciliation, au pardon, Seigneur, afin que nos cœurs soient rassurés, que nous sachions que nous connaissons Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous prions. Amen.